Ravenne. Poème récité au théâtre Sheldon à Oxford le 26 juin 1878. À mon ami George Fleming, auteur du roman du Nil et de Mirage. Ravenne, mars 1877. Oxford, mars 1878. Il y a un an, je respirais l'air de l'Italie. Et pourtant, il est beau, ce me semble, ce printemps du Nord, avec ses campagnes que dort la fleur de mars, le sansonnet qui chante sur le bouleau velouté, les feux qui croassent, les ramiers des bois qui voltigent de ci, de là, les petits nuages qui courent par le ciel. Elle est jolie, la violette qui penche doucement la tête, la primevère pâle d'amour inconsolé, la rose qui bourgeonne sur l'églantier grimpant, le groupe de crocus, qu'on dirait une lune de feu qui aurait pour contour un anneau pourpre de fiançailles, et toutes les fleurs d'autres printemps anglais, les charmants personnages et la sorcelle aux brillantes étoiles. L'alouette prend son essor près du moulin qui murmure et brise les fils de la Vierge que couvre la première rosée. Et le long de la rivière, pareil à une flamme bleue, file comme une flèche le martin pêcheur pendant que les linottes brunes chantent dans la verte feuillée. Il y a un an, oh, il me semble qu'un temps bien court se soit passé depuis la dernière fois que j'ai vu ce magnifique climat du sud, où fleurs et fruits prennent le rayonnement de la pourpre, où les pommes de la table brillent comme des lampes allumées. C'était alors le printemps, et je chevauchais à mon gré par des vignes à la riche floraison, par les sombres bosquets d'oliviers. L'air moite était doux. La route blanche résonnait sous les pieds de mon cheval, et tout en rêvant au nom antique de Ravenne, j'épiais le jour jusqu'au moment où, masqué de blessures de flammes, le ciel de turquoise prit la teinte de l'or bruni. Oh, comme mon cœur brûla d'une jeune passion, quand bien loin, par-delà les roseaux et les eaux stagnantes, j'aperçus cette cité sainte, surgissant entre éclairs et portant sa couronne de tours. J'accélérai mon galop, rivalisant avec le soleil couchant, et avant que se fussent éteintes les dernières lueurs cramoisies, je me vis enfin dans l'enceinte de Ravenne. Quel étrange silence! Nul bruit de vie ou de joie n'agite l'air. Point de jeune berger rieur qui joue du chalumeau. Même pendant tout le jour, on n'entend pas les cris heureux des enfants qui jouent. Comme c'est triste et doux et silencieux. Assurément, on pourrait vivre ici bien loin de toute crainte, avoir le défilé des saisons, depuis l'amoureux printemps jusqu'à la pluie et la neige de l'hiver, sans avoir jamais eu à avoir un souci. Ces eaux, sans nul doute, sont celles du l'été, et cette plainte est celle qui donne à l'homme l'oubli de sa patrie. Oui, parmi les prairies semées de lotus, tu te dresses comme Proserpine, la tête couronnée de pavots, et tu gardes les cendres sacrées des morts. Car bien que tu aies laissé l'enfanter des générations guerrières, tes nobles morts sont avec toi, eux du moins, sont fidèles à ta gloire. Garde-les avec sollicitude, ô cité sans enfants, car c'est un charme puissant pour éveiller chez les hommes les rêves de choses sublimes que ces tombes solitaires où reposent les grandeurs du passé. Voyez ce pilier voûté qui se dresse dans la plaine. Il marque la place où le plus brave des chevaliers de France reçut le coup mortel. C'était le prince de la chevalerie, le seigneur de la guerre. C'était Gaston de Foix. Quelque étoile de malheur l'entraîna contre ta cité, et il tomba, combattant bravement, comme tombe un lion de la forêt. Il fut ravi à la vie, alors que la vie et l'amour étaient nouveaux pour lui. Il repose sous le voile bleu, sans couture de Dieu. De hauts roseaux, pareils à des lances, oscillent tristement sur sa tête, et des nerfs-bruns prennent un rouge plus vif, là où s'épancha sur le sol le sang pourpre de sa brillante jeunesse. Portez vos regards un peu plus loin au nord, vers ce tertre ravagé. Là gît maintenant captif dans une tombe digne d'un prince, élevé par la main de sa fille, dans la profondeur ténébreuse, Théodoric, le roi Goth, à la puissance membrure. C'est là qu'il dort, là enfin de ses victoires. Le temps n'a point épargné la ruine. Le vent et la pluie ont abattu sa forteresse, et nous voyons une fois de plus que la mort est le souverain maître de toutes choses, et que rois et paysans doivent devenir de la poussière. Sans doute le fut grande leur gloire à eux, mais à mes yeux, le roi barbare, le héros de la chevalerie, la grande reine elle-même était chose misérable et vaine, à côté du tombeau où Dante se repose de ses peines. Sa tombe dorée s'ouvre en plein air, et un sculpteur aux mains habiles y a gravé le front blanc et calme, aussi calme que l'aube naissante. Ses yeux, où s'allumaient les éclairs de l'amour et du dédain, ses lèvres qui chantèrent le ciel et l'enfer, cette figure ovale que dessina si bien Giotto, la figure lasse du Dante. Jusqu'à ce jour, il est resté au lieu où il a trouvé le repos, bien loin de l'Arno qui précipite ses flots jaunes sous les larges ponts de cette belle cité, où le haut campanile de Giotto semble se dresser comme un lys de marbre sous des cieux de saphir. Hélas, mon Dante, tu as connu la douleur des existences plus vulgaires, la chaîne odieuse de l'esclavage, et combien il est pénible de monter les degrés dans les demeures des rois, et toutes les mesquines misères qui défigurent la noble physionomie d'un homme sous le ressentiment de l'injustice. Et pourtant, ce morne univers est reconnaissant de ton chant, nos nations te rendent hommage, et elle aussi, cette reine cruelle de la Toscane vêtue de vignobles, elle qui de ton vivant a mis sur ton front une couronne d'épines, elle a maintenant couvert de lauriers ta tombe vide et redemande vainement les cendres de ton fils. Ô le plus grand des exilés, ta souffrance est finie, ton âme est maintenant auprès de la Béatrice. Ravenne, garde tes cendres, dors en paix. Comme ce palais solitaire, comme ses murs sont gris, nul ménestrel n'éveille désormais l'écho dans ses salles. La chaîne brisée, rongée de rouille, pend à la porte, et les mauvaises herbes ont fendu le pavé de marbre. Par ici se cache le serpent, et par là les lézards courent près les tons de pierre qui clignotent au soleil. C'est là que Byron logea, qu'il abrita son amour et ses plaisirs pendant deux longues années, comme un autre Antoine, pour qui l'univers fut un autre axiome. Pourtant, il ne se lasse point de se faner son âme royale, ni se briser sa lyre, ni s'émousser la pointe de sa lance, grâce aux arts perfides d'une reine d'Égypte, car de l'Orient se fit entendre un grand cri. La Grèce se dressa prête à combattre pour la liberté, et elle le fit venir de Ravenne. Jamais chevalier ne partit plus généreusement pour les mêlées des batailles. Nul ne tomba plus bravement sur le sol ensanglanté, dont on le rapporta sur son bouclier comme on eût fait d'un spartiate. Ô Hellade, Hellade, en ton heure de fierté, en ton jour de puissance, rappelle-toi celui qui mourut pour arracher de tes membres les chaînes de la servitude. Ô Salamine, ô plaine solitaire du Platée, ô vague furieuse de la mer Eubéenne, pleine de tempêtes, ô cime des Thermopyles désertes que balaient les vents, il vous aima bien, et non point en paroles seulement, celui qui se donna si libéralement sa lyre et son épée, comme fit Achille dans la bataille acharnée de Marathon. Et l'Angleterre, elle aussi, se réjouira de son fils, de son guerrier, poète, le premier à chanter et à combattre. La calomnie à la rage empoisonnée n'osera plus ramper comme un serpent sur son nom accompli et défigurer l'écusson seigneurial de sa renommée. Car ainsi que la couronne d'olivier, récompense de la course, illumine de joie la figure animée de tous les coureurs, comme la croix rouge qui sauve les mômes pendant la guerre, comme le phare empanaché de flammes qu'aperçoivent de loin les marins sur une mer que soulève l'orage, tel était son amour pour la Grèce et la liberté. Byron, tes couronnes sont énervement fraîches et vertes, les pétales rouges des roses de la saphique Mytilène scindront ton front. Pour toi, fleurit le myrte dans des clairières mystérieuses, près de la solitaire Castalia. Les lauriers attendent ta venue, et ils sont tous à toi, et leur entrelacement formera autour de ta tête une couronne parfaite. Les cimes des pins se balançaient à la brise du soir, au murmure enroué des flots de l'hiver, et les troncs élancés étaient rayés d'un mer d'ambre brillante. Je me promenais par les bois, plein d'une joie emportée. Un oiseau effarouché, de ses ailes battantes et de ses pattes, faisait voler en neige toutes les fleurs. À mes pieds, pareils à des couronnes d'argent, étaient les pâles narcisses, et des oisillons chantaient sur toutes les branches entrelacées. Ô arbre inflexible, ô liberté de la forêt! Dans vos îles, du moins un homme est libre, et oublie en partie le monde là de querelle. Le sang coule plus chaud, et une sensation de vie s'éveille dans les veines accélérées, pendant qu'une fois de plus les bois s'emplissent de divinités que nous avions cru mises à mort. Pendant longtemps j'attendis, et certainement j'espérais voir quelques pans au pied de chèvre, chanter de joyeuses chansons parmi les roseaux, quelques vierges dryades surprises et s'enfuyant pudiquement, ou bien les contours harmonieux, les membres bruns, la figure éhontée et trompeuse de quelque dieu des bois embusqué dans la clairière. La reine Diane chasseresse aux membres blancs, impitoyable à l'air fier, tenant en laisse les chiens de meute bondissant à ses côtés, ou bien Hylas, réfléchi par les eaux pures du ruisseau. Ô cœur oisif, ô rêve chéri de l'Hellade, avant qu'il fût longtemps, les vibrations croissantes et décroissantes, au son mélancolique des carillons du soir, la cloche qui sonnait les vêpres dans un couvent, vint frapper mon oreille parmi ces fleurs d'amour. Hélas, hélas! Ces heures douces comme le miel avaient englouti mon cœur comme une mer envahissante et noyé tout souvenir du noir Gethsémani. Ô solitaire Ravenne, on fait plus d'un récit sur les grandes gloires de tes jours d'autrefois. 2000 ans se sont écoulés depuis que tu vis César monter à cheval pour aller remporter d'impériales victoires. Ton nom était puissant lorsque les maigres aigles de Rome volaient des îles britanniques au lointain flot bleu de l'Euphrate, et tu régnais en noble reine sur les peuples, jusqu'au jour où l'on vit dans les rues le go et le vin, découronné par l'homme, détesté par la mer, tu dors bercé dans une pauvreté solitaire. Désormais, sur ta rive où s'enflait la marée, des milliers de galères, comme une forêt de pins, ne vogueront plus, car là où flottaient constamment des vaisseaux à l'éperon de bronze, le berger morose joue ses airs pleins de tristesse, et les blanches brebis errant à leur gré dans les lieux où coulaient les eaux empourprées de la Dria. Quelle beauté, quelle tristesse! Ô reine inconsolée, tu gis morte au milieu du charme des ruines, seule parmi toutes tes sœurs, car du moins le roi guerrier de l'Italie a franchi la plus fière des portes de Rome et a porté la couronne dans les temples orgueilleux de la ville éternelle et fait retentir de son nom les 7 montagnes. Et Naples a survécu à son rêve de douleur, et elle raille ses tyrans. Venise ressuscite et reparaît du fond des eaux, et le cri de lumière et vérité, d'amour et liberté, se fait entendre dans Gênes l'impérieuse, et là où les clochers de marbre de Milan troulèrent. Il résonne depuis les Alpes jusqu'aux rives siciliennes, et le rêve de Dante n'est plus un rêve maintenant. Mais toi, Ravenne, toi qui fus la plus aimée, tes palais en ruine ne se sont plus qu'un voile funèbre jeté sur ta grandeur tombée, et ton nom brille comme la flamme terne et frissonnante d'une bougie, sous la splendeur du soleil en plein midi de la nouvelle Italie. Car la nuit a disparu, la nuit de sombre oppression, et le jour s'est levé avec une magnificence d'enthousiasme. Les chiens de l'Autriche sont chassés bien loin du pays, par-delà ces citadelles couronnées de glace qui se dressent pour former une ceinture à la plaine de la royale Lombardie, depuis l'Orient lointain jusqu'à la mer orientale. Je sais, il est vrai, que du nombre de tes fils, il en fut qui périrent dans les eaux de Lissa, sur les pentes escarpées d'Aspromonte, sur la plaine de Novare, mais ce n'est point en vain que tes enfants sont morts pour toi. Et pourtant, à ce qu'il me semble, tu n'as point bu de ce vin, sorti des raisons nouvellement foulées de la liberté divine. Tu n'as point suivi cette étoile immortelle qui pousse les peuples vers les exploits guerriers. Las de la vie, tu restes plongé dans le silencieux sommeil. Comme celui qui suit des yeux la venue des ombres et qui s'allonge, indifférente aux heures qui vont à pas pressés, tu portes le deuil de quelques jours de gloire, car le soleil de la liberté ne t'a point montré sa face, et dans la course tu n'as point conquis le flambeau. Ne te réveille pas néanmoins de ton assoupissement. Reste bien en repos parmi les asphodèles ambrés de tes campagnes, dans tes prés semés de lys. Reste là en repos pour railler toute grandeur humaine. Qui oserait étaler les mesquins soucis de son existence en présence de tes ruines, ou louer les querelles ambitieuses des rois et l'orgueil stérile des nations en guerre? N'as-tu point été la fiancée du prince farouche qui régnait sur l'orageux Adriatique, la reine des empires jumeaux et les nations ne t'ont-elles pas été données en proie? Et maintenant, les portes restent ouvertes nuit et jour. L'herbe pousse drue sur toutes les tours, dans tous les palais. Le sinistre figuier a lézardé ton mur de bastion, et là où prenaient leur repos les guerriers vêtus de mailles, la chouette de minuit a fait son nid caché. Ô déchu, déchu de tes grandeurs, ô cité captive dans les filets de la destinée, rien ne reste de tous les jours de gloire qu'un écusson terni et une couronne de laurier flétrie. Pourtant, qui donc, sous cette nuit de guerre et de terreur, peut du haut de la tour tranquille épier la venue des armées futures? Qui peut dire à l'avance quelle joie amènera le jour, ou pourquoi les linottes chantent avant l'aube? Toi, toi aussi, tu peux te réveiller, ainsi que la rose se réveille en son éclat d'incarnat du tombeau que lui font les neiges, comme les opuleux champs de blé qui rougissent, puis se dorent, surgissent de ce sol brun, que durcit l'âpre voix de l'hiver, ou comme des mêlées de la tempête se dégage une parfaite étoile. Ô cité tant aimée, j'ai voyagé bien loin des îles saintes de vagues qui sont ma patrie. J'ai vu le sombre mystère du dôme se lever lentement sur la route de la morne Campania et se revêtir de la robe royale du jour. Et de la cité couronnée de violettes, j'ai assisté au coucher du soleil près de la colline de Corinthe. Et j'ai vu le rire infiniment nombreux de la mer du haut des collines qu'éclairaient les étoiles dans l'Arcadie constellée de fleurs. Et pourtant, c'est à toi que revient mon plus complet amour, comme revient le soir à son nid de la forêt la tourterelle attardée. Ô cité du poète, celui qui a vu à peine une vingtaine d'étés perdre leur fruste au corps vert pour prendre la livrée de l'automne, ferait un vain effort pour éveiller sur sa lyre un chant plus sonore ou pour dire les jours de gloire. Et vraiment, c'est peu de chose que le léger murmure qui sort du chalumeau du pâtre, alors que le souffle vibrant du clairon devrait ébranler le ciel et embraser toute ta voûte. Et ce serait folie que d'aborder de pareils sujets. Pourtant, je sais que mon cœur n'a jamais éprouvé une plus noble ardeur que le jour où je réveillais tes rues de leur silence sous le choc bruyant des fers de mon cheval, et que je vis la ville que j'essaye de chanter maintenant après de longues journées d'un voyage monotone. Adieu, Ravenne. Mais il y a un an, je restais debout à contempler la pourpre splendide du couchant dans la chapelle solitaire de ta plaine marécageuse. Le ciel était pareil à un bouclier qui aurait reçu du soleil mourant la tache du sang et de la bataille. Et à l'ouest, les nuages formant le cercle avaient tissé une robe royale digne d'être portée par quelques-uns des grands dieux, pendant que dans la vaste étendue, l'océan de l'air empourpré descendait la galère dorée du dieu de la lumière. Ici encore, la douce tranquillité de la nuit ramène le flux montant du souvenir et ravive l'amour passionné que j'eus pour toi. C'est maintenant le printemps d'amour, mais bientôt l'été s'épanouira en maître sur les prairies, sur les arbres. Et bientôt le gazon s'embellira de fleurs plus brillantes et produira des lys que fauchera quelque adolescent. Puis, avant peu, le vainqueur de l'été, l'opulent automne, saison usurière, prêtera son or accumulé à tous les arbres pour le voir dispersé de tous côtés par la prodigalité de la brise. Et ensuite, ce sera le froid et monotone hiver. Ainsi s'accomplit jusqu'au bout le cycle de l'année. Ainsi nous allons de l'adolescence à l'âge viril pour déchoir dans les jours pénibles où les boucles de cheveux sont de neige. L'amour seul ne connaît point l'hiver. Il ne meurt jamais. Il n'a aucun souci des menaces de l'orage ni du ciel de plomb. Et celui que j'ai pour toi ne passera jamais, alors même que mes lèvres faibles ne pourraient que bégayer ton éloge. Adieu, adieu. L'étoile silencieuse du soir, avant-courrière de la nuit, scintille dans le lointain et avertit le berger de ramener ses troupeaux au bercail. Peut-être, avant que les mers d'or de nos champs soient réunies en gerbe par les moissonneurs, peut-être, avant que je voie les feuilles d'automne, je pourrai contempler ta cité et déposer humblement à tes pieds la couronne de laurier du poète. Adieu, adieu. Cette lampe d'argent, la lune, qui pour nous fait l'heure de minuit aussi claire que midi, éclaire sûrement tes tours et fait bonne garde là où Dante dort, où Byron aimait à vivre.